Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères.
Radio U, textuel, lire pour vivre mille vies.
J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses.
Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront.
Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la
J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un.
Au chapeau de feutre.
Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence.
Accoudée au bastingage.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dimanche, j'ai voté. Parce qu'il y a un parti qui m'inspire, parce que je préfère cette démocratie aux dictatures qui nous guettent, parce que j'apprécie que certains, même si ce ne sont pas des dieux, s'engagent dans la vie de la cité à ma place. Parce que, enfin, je ne vis pas sur mon île, contrairement à ce que je m'imagine parfois, souvent même. Et on m'a parlé des résultats, et j'étais plutôt contente. Je regardais le verre à moitié plein, un espoir se profile, grâce aux jeunes, paraît-il, alors je me suis sentie jeune. Mais ce matin, au bar, entre deux propos légers et satisfaits, ma copine me dit « J'ai regardé les résultats, par curiosité, dans la région où tu déménages. » Ah oui, ai-je dit en prenant ma tête dans mes mains. J'avais oublié qu'il faut que je déménage. Tu veux dire cette belle région ensoleillée où les bibliothèques furent épurées? Non, je n'ai pas regardé. Et j'ai mis mes mains sur mes yeux. Et nous avons fait des grimaces en disant « Qu'est-ce qu'on est bien ici ?» Après, on a reparlé de la vie des gens et de la nôtre qu'on connaît un peu mieux, et on a parlé du grand amour, sujet de conversation préféré des copines, avec la politique. Et elle a dit, en écarquillant les yeux, « Ah bah c'est pas ici qu'on va le trouver !» Ici, c'est le Longchamp, le bar PMU du quartier. « T'as raison Poulette, j'ai dit. Alors, on bouge, le monde nous attend. » Et voilà, ce soir, j'avais envie de lire un roman politique. Et je me suis rappelé ce roman génial de Yu Roy qui s'appelle Brothers, dont l'histoire se déroule dans la Chine des années 60 et suivantes. Une grande fresque sociale, psychologique, avec de la violence et de l'amour. De la politique, quoi. Guangto, un nabab de chez nous autres, au bourg des Lio, avait conçu l'idée insensée de dépenser 20 millions de dollars rien que pour s'acquitter du droit d'aller faire du tourisme dans l'espace à bord d'un vaisseau Soyouz. Assis sur la lunette de ses toilettes en plaqué or, dont la renommée avait franchi les limites de nos murs, il imaginait déjà, les yeux clos, sa vie future de vagabond intersidéral lancé sur orbite. Dans le silence insondable, il se penchait en avant et voyait la surface magnifique de la Terre se dérouler progressivement. Il sentit ses larmes couler malgré lui en réalisant pour la première fois qu'il n'avait plus aucun parent sur cette Terre. Il avait eu un frère, nommé Song Gang, auquel il était très lié. Song Gang était son aîné d'un an, il le dépassait d'une tête et c'était un type honnête et intransigeant. Il était mort 3 ans auparavant et n'était plus qu'un tas de cendres dans une minuscule boîte en bois. Quand Li Guangtuo pensait à cette petite boîte où Song Gang était enfermé, il soupirait. Même un arbuste calciné aurait produit plus de cendres. Du temps où elle était encore de ce monde, la mère de Li Guangtou lui répétait souvent « Tel père, tel fils ». C'était de Song Gang qu'elle parlait. Elle disait que Song Gang était aussi loyal et bon que son père, que le père et le fils étaient comme deux courges qui auraient poussé sur la même tige. Dès qu'il était question de Li Guangtou, en revanche, elle secouait la tête et affirmait qu'il n'y avait rien de commun entre lui et son père, qu'ils étaient à 100 lieues l'un de l'autre. Pourtant, quand Li Guangtou, l'année de ses 14 ans, fut surpris dans les toilettes publiques à mater les fesses de 5 femmes, l'opinion de sa mère changea radicalement. Elle dut se rendre à l'évidence et admettre que Li Guangtou et son père étaient eux aussi deux courges issues d'une même tige. Li Guangtou se souvenait parfaitement de la scène, du regard fuyant et effrayé de sa mère et de son air triste quand elle avait tourné les talons et qu'elle avait marmonné en essuyant ses larmes « Tel père, tel fils ». Li Guangtou n'avait jamais connu son père. Le jour de sa naissance, celui-ci avait péri dans des conditions peu ragoûtantes. Sa mère prétendait qu'il s'était noyé et Li Guangtou avait voulu savoir où. Dans la rivière? Dans l'étang? Dans le puits? Mais sa mère était restée muette. Il était demeuré dans l'ignorance jusqu'au moment où il avait été pris en flagrant délit à mater les fesses des filles au WC et où, pour employer un mot à la mode, il avait alimenté la presse à scandale. Car c'est seulement quand le scandale des toilettes avait éclaté et que sa mauvaise réputation s'était répandue comme une traînée de poudre dans le bourg que Li Guangtou avait fini par apprendre que son père et lui étaient bel et bien comme deux courges poussées sur la même tige. C'est dans une fosse à merde que son père s'était noyé. Il était tombé dedans par mégarde alors qu'il tentait d'apercevoir le derrière d'une fille aux toilettes. « Tel père, tel fils », répétait à l'envi tout le bourg, en riant à gorge déployée. Cette devise était devenue chez nous aussi banale que les feuilles sur un arbre. Même les bébés qui têtent encore et savent à peine parler avaient appris à prononcer cette redoutable maxime pourtant formulée en chinois classique. Les gens se montraient Li Guangtou du doigt en faisant des messes basses et en ricanant sous cape. Mais Li Guangtou, arborant un air innocent, arpentait les rues comme si de rien n'était. Il riait en son fort intérieur. Il avait bientôt 15 ans et il savait à présent comment sont les hommes. De nos jours, des fesses de femmes nues, on en voit partout. À la télévision, au cinéma, dans les VCD ou les DVD, dans les publicités ou dans les magazines, sur les stylos à billes ou les briquets. Des postérieurs de toutes sortes, des postérieurs d'importation ou des postérieurs de fabrication chinoise, des blancs, des jaunes, des noirs et des bruns, des larges, des étroits, des gros et des maigres, des lisses et des rugueux, des jeunes et des vieux, des faux et des vrais. On n'a que l'embarras du choix et une paire d'yeux ne suffit pas pour tout regarder. De nos jours, les fesses d'une femme à poil, cela ne vaut plus rien. Il suffit de lever la tête pour en voir une paire. On a à peine le temps d'éternuer qu'on tombe sur une deuxième, et on n'a pas sitôt tourné le coin de la rue qu'on risque de marcher sur une troisième. Mais en ce temps-là, il n'en allait pas de même. C'était un trésor que personne n'aurait échangé contre tout l'or du monde. Et il n'y a qu'aux toilettes qu'on pouvait espérer en mater une. Et voilà comment un petit voyou du genre de Li Guangtou s'était fait pincer la main dans le sac, là-bas, et pourquoi un grand voyou comme son père y avait perdu la vie. En ce temps-là, les toilettes publiques n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui, où même avec un périscope, on n'apercevrait pas les fesses de sa voisine. À l'époque, seule une mince cloison séparait le coin des hommes de celui des femmes, et la tranchée qui courait en dessous était commune aux deux sexes. Les bruits, on ne peut plus explicites, de défécation et de jets d'urine qui provenaient du côté des femmes vous enflammaient l'imagination. Alors, à l'endroit où aurait dû se trouver votre derrière, vous glissiez avidement la tête et, les deux mains arrimées à la planche, le corps plié en deux, les yeux irrités par la puanteur, sans prêter attention aux asticots qui grouillaient autour de vous, tel un champion de natation qui s'apprête à plonger, vous lanciez votre tête et votre corps le plus loin possible en avant, de façon à apercevoir la plus grande surface possible de postérieur. Cette fois-là, Li Guangto avait vu cinq derrière simultanément. Un petit, un gros, deux maigres et un ni gros ni maigre, bien alignés comme cinq quartiers de porc suspendus dans une charcuterie. Le gros ressemblait à de la viande fraîche, les deux maigres à de la viande salée. Quant au petit, ne méritait pas qu'on s'attarde sur lui. Celui qui plut à Li Guangto, c'était celui qui n'était ni gros ni maigre. Il l'avait juste devant les yeux, c'était le plus rond des cinq, tellement rond qu'on aurait cru qu'il avait été roulé en boule. La peau tendue laissait apparaître le coccyx légèrement proéminent. Li Guangto, le cœur battant, aurait voulu voir les poils pubiens de l'autre côté du coccyx. Il aurait voulu voir l'endroit d'où il sortait. Il avait continué d'avancer le buste, de tendre le cou, mais alors qu'il était sur le point de toucher au but, il avait été surpris. Un individu répondant au nom de Zhao Shangli avait fait irruption juste à cet instant dans les toilettes. C'était un des deux grands lettrés du bourg. En voyant un homme, la tête et le buste enfoncés dans le trou, il avait compris aussitôt ce qui se passait. Tirant Li Guangto par ses vêtements, il l'avait relevé d'un coup sec comme on arrache une carotte. Zhao Shangli avait alors une vingtaine d'années et il avait déjà publié dans la revue Ronéauté de la Maison de la Culture du District un quatrain qui lui avait valu le surnom flatteur de Zhao le poète. Il était si excité par sa prise qu'il en était tout rouge. Il traîna dehors le garçon de 14 ans et entreprit de le sermonner copieusement dans son registre poétique imagé. Au lieu de contempler les fleurs de colza qui colorent de jaune la campagne, au lieu de contempler les poissons qui folâtrent dans la rivière, au lieu de lever la tête pour admirer les nuages immaculés qui flottent dans l'azur, toi, tu mets la tête là-dedans. Zhao, le poète, vociférait ainsi devant les toilettes depuis plus de 10 minutes, sans que rien ne bouge à l'intérieur de la partie réservée aux femmes. Énervé, il courut à la porte et intima l'ordre aux cinq postérieurs de sortir en vitesse. Oubliant ses élégances de poète, il cria sans ménagement « Arrêtez ce que vous êtes en train de faire! Quelqu'un vous matait le cul et vous ne vous en êtes même pas rendu compte! Sortez tout de suite !» Les propriétaires des cinq derrière se décidèrent enfin et sortirent en trombe, qui en pestant, qui en grinçant des dents, qui en poussant des cris d'or frais, qui en pleurnichant. Celle qui pleurait était le petit derrière que Li Guangto avait jugé peu digne d'intérêt, une gamine de 11 ou 12 ans. Elle se couvrait le visage des deux mains, secouée de sanglots, comme si Li Guangto ne s'était pas contenté de l'épier qu'il l'avait violentée. Li Guangto, que Zhao le poète tenait toujours, restait là, regardant le petit derrière en larmes. « Pourquoi pleures-tu ? » se disait-il. « Avec ton petit cul qui n'est pas encore fini, il n'y a pas de quoi. » Et putain, si je l'ai regardé, c'est bien malgré moi. » Une belle jeune fille de 17 ans sortit la dernière. Les joues en feu, elle jeta un regard furtif sur Li Guangto et s'éloigna tout aussi furtivement. Zhao, le poète, essaya de la retenir en s'époumonant. « Ne sois pas timide comme cela, lui disait-il, il faut que tu obtiennes réparation. » Mais elle pressa le pas sans se retourner. En voyant ses fesses tortiller, Li Guangto reconnut le postérieur tellement rond qu'il aurait cru qu'il avait été roulé en boule. Quand le derrière rond se fut éloigné et que le petit derrière pleurnichard en eut fait autant, un derrière maigre déversa sur lui un tombereau d'injures, lui cracha à la figure, puis s'essuya la bouche de la main avant de s'éloigner à son tour. Li Guangto suivit des yeux sa propriétaire, son derrière était si maigre que son pantalon semblait vide. Il ne resta plus que 3 personnes pour accompagner Li Guangto au poste de police. Zhao le poète, le visage rayonnant,
le gros derrière qui ressemblait à de la viande fraîche et le derrière maigre qui ressemblait à de la viande salée. Ils escortaient Li Guangtou à travers notre petite ville de moins de 50 000 âmes. Et ils avaient déjà effectué la moitié du chemin quand l'autre grand lettré du bourg, Liu Chenggong, se joignit au cortège. Le dénommé Liu Chenggong avait lui aussi une vingtaine d'années. Et il avait lui aussi publié une œuvre dans la revue Ronéoté de la Maison de la Culture du District. Il s'agissait d'une nouvelle qui couvrait deux pages au texte serré, deux pages qui avaient quand même plus de gueule que le quatrain de Zhao le poète, lequel n'avait servi qu'à boucher un trou. Liu Chenggong avait lui aussi un surnom flatteur, celui de Liu l'écrivain, un surnom qui n'avait rien à envier à celui de Zhao le poète, et il n'était évidemment pas disposé à lui céder la première place en quelque domaine que ce soit. Un sac à riz vide à la main, il était en route pour le magasin de céréales quand il avait aperçu Zhao le poète qui paradait dans la rue, tout fier d'avoir capturé Li Guangtou le voyeur. Comme il n'était pas question pour lui de laisser Zhao tenir le haut de l'affiche tout seul, il voulut profiter également de cette occasion de se mettre en valeur. Il s'approcha en braillant et lança à Zhao le poète avec l'air d'un sauveur providentiel « Je viens t'aider ». Les deux plumitifs étaient des amis intimes. Liu l'écrivain avait épuisé tous les qualificatifs pour louer le quatrain de Zhao le poète. Et Zhao le poète lui avait renvoyé l'ascenseur et renchéri dans l'hyperbole pour vanter les mérites des deux pages de Liu l'écrivain. Au départ, Zhao le poète tenait Li Guangtou en marchant derrière lui, mais quand il vit Liu l'écrivain arriver en vociférant, il s'écarta sur la gauche pour laisser à celui-ci le côté droit. Ainsi réunis, les deux grands lettrés du bourg des Liu, agrippant Li Guangtou par le col, l'un à droite et l'autre à gauche, entreprirent une marche interminable le long des rues. Ils répétaient à qui voulait les entendre qu'ils conduisaient leurs prisonniers au commissariat. Or, ils évitèrent soigneusement le poste de police tout proche et firent un crochet jusqu'à un poste plus éloigné, veillant à emprunter les grandes artères et non pas les ruelles afin de bien se faire remarquer. Tandis qu'ils promenaient Li Guangtou, ils lui dirent, comme s'il y avait lieu de l'envier, « Regarde un peu, tu es escorté par deux grands lettrés. Tu ne connais pas ta chance, mon gars. » Zhao le poète crut bon d'ajouter « C'est comme si Li Bai et Du Fu t'escortaient. » Liu l'écrivain trouva que la comparaison de Zhao le poète tombait à plat, car Li Bai et Du Fu étaient tous les deux des poètes, alors que lui-même était romancier. Aussi rectifia-t-il. Plus exactement, c'est comme si Li Bai et Cao Xueqin t'escortaient. Bien qu'encadré par les deux autres, Li Guangtou tournait la tête dans tous les sens avec un air de parfaite insouciance. En entendant les deux lettrés de notre bourg des Liu se comparer à Li Bai et à Cao Xueqin, il ne put s'empêcher de ricaner. Même moi, je sais que Li Bai a vécu sous les Tang et Cao Xueqin sous les Qing. Comment quelqu'un des Tang pourrait-il se retrouver avec quelqu'un des Qing ? Les badauds massés sur leur passage éclatèrent de rire et applaudirent la remarque de Li Guangtou. Ils déclarèrent que les deux grands lettrés du bourg des Liu avaient peut-être du talent en matière littéraire, mais qu'en histoire, ils en savaient moins long que ce vaurien qui matait le cul des filles. Les deux compères étaient rouges de confusion.
Je vous ai lu le début du roman Brothers de Yu Hua, publié chez Actes Sud en 2005.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.